Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ces moments parce que Seigneur, en toute liberté, nous pouvons ouvrir ta parole et nous savons que ce soir, tu vas encore parler à nos cœurs. Merci parce que nous allons encore apprendre à mieux te connaître, Seigneur, à regarder à toi et nous voulons vraiment te louer pour cela. Bénis Seigneur nos sœurs et nos frères qui sont peut-être sur la route pour nous rejoindre. Garde chacun dans ta main et continue Seigneur aussi à bénir ton œuvre à peau et que vraiment dans tous les domaines, nos désirs soient de te glorifier et d'être à ta ressemblance. Amen.
Amen. Amen. Amen.
Alors, comme le mardi dernier, on va distribuer c'est un plan de ce qu'on va voir ce soir. Voilà. Alors, comme ça a été dit, ce soir, c'est le thème, on va parler surtout de la Trinité. Alors, c'est vrai que la dernière fois, nous avons abordé le thème sur Dieu, et aujourd'hui, c'est sur la Trinité. Et c'est vrai que c'est un thème quand même qui doit se traiter un peu de façon toute particulière. Parce que c'est vrai que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ça peut être peut-être mal connu ou mal interprété. Et encore, ce n'est pas avec... comme on avait dit la dernière fois, c'est pas avec une théorie humaine ou philosophique, philosophique que nous pouvons en parler, mais c'est par la révélation de la parole de Dieu, la Bible. Nous avons vu et entendu que nos premières études, le thème c'était sur l'inspiration de l'Écriture, et ce soir encore c'est sous l'inspiration de ce que va nous dire la parole de Dieu que nous allons entamer ce thème, mardi dernier, nous avons parlé de la personne de Dieu, sur sa nature, sur sa divinité et sur ses attributs. Et ce soir, nous parlerons bien sûr de Dieu 3x5, Dieu le Père, Dieu le Fils et du Saint-Esprit, la Trinité. Alors, tout d'abord, je me suis marqué en dernière minute, j'ai relu un peu ce que je voulais vous partager. Et la doctrine de la Trinité n'est pas une vérité de la théologie naturelle, mais de la révélation, de la parole, bien entendu. La raison peut nous montrer l'unité de Dieu, mais la doctrine de la Trinité vient tout simplement de la parole de Dieu. Et nous croyons que cette parole a été inspirée, et nous croyons que la parole est la vérité. C'est pour ça que nous, chrétiens, nous nous appuyons bien sûr sur les écrits, les saintes écritures, la parole de Dieu. Alors le terme Trinité signifie qu'il y a dans l'unique essence divine trois distinctions éternelles connues, respectivement comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces trois distinctions sont trois personnes. Nous adorons Dieu trinitaire, ces trois personnes sont co-éternelles et égales. Nous adorons l'unité dans la Trinité et la Trinité dans l'unité. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ouais. C'est que nous croyons à l'unité de Dieu en trois personnes et cette Trinité aussi qu'elle est unique. Il n'y a que Dieu qui possède cette divinité. Et je vous propose peut-être, avant de commencer vraiment le thème, nous allons lire dans 1 Corinthiens au chapitre 8. Alors ce n'est pas noté sur vos feuilles, parce que je l'ai rajouté un peu au dernier moment. Alors on va bien sûr prendre pas mal de versets encore ce soir. Et là je vous propose de lire 1 Corinthiens au chapitre 8, versets 5 et 6. Alors si quelqu'un l'a, n'hésitez pas à le lire.
5 et 6
oui.
Car aussi, s'il y en a qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il y a beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs, toutefois pour nous, il y a un seul Dieu, le Père, duquel sont toutes choses, et nous pour lui, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous par lui.
Voilà. Alors ici, ça serait quand même une aberration de dire que, de ce passage, que Paul pense que Jésus n'est pas Dieu. Car il faudrait dans ce cas aussi en arriver à dire que le Père n'est pas le Seigneur. Ce qui serait absurde. Bien entendu. En fait, c'est la divinité du Père et de la seigneurie du Fils qui, d'un bloc, sont opposés à la multiplicité des divinités païennes. Et je vous propose aussi peut-être de lire dans Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 6.
Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous.
Voilà. Les trois sont des personnes séparées, distinctes de l'un de l'autre, avec des rôles différents, tout en étant un. Voilà un peu en gros. Mais nous allons voir, nous allons continuer, peut-être prendre nos feuilles maintenant, et nous allons parler de l'unité de Dieu. Alors, l'unité de Dieu, je me prends ma feuille, l'unité de Dieu signifie qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que personne ne peut se comparer à lui. C'est vrai que la dernière fois, nous en avons déjà parlé, mardi dernier, et que l'unité de Dieu, elle était indivisible. Et il n'y a qu'un seul Dieu, c'est la grande vérité de l'Ancien Testament. Alors nous allons lire, pour commencer, dans Deutéronome au chapitre 4, verset 35 à 39.
Tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. Et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu, et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Il a aimé tes pères, et il a choisi leur postérité après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. Il a chassé devant toi des nations supérieures en nombre et en force pour te faire entrer dans leur pays, pour t'en donner la possession, comme tu le vois aujourd'hui. Sache donc, en ce jour, et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre.
Voilà, tout à fait. Ça, c'est l'unité de Dieu. On peut lire 1 Roi, chapitre 8, verset 20, verset 60, pardon.
Ainsi, tous les peuples de la terre reconnaîtront que c'est l'Éternel qui est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre.
Voilà, il n'y a pas d'autre Dieu. Ça, c'est, on voit, alors il y a d'autres passages, bien entendu, je parle dans l'Ancien Testament, mais la même vérité, elle est enseignée dans le Nouveau Testament. Dieu est l'unique Seigneur, et vous pouvez les prendre dans Jean au chapitre 7, verset 3.
Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.
Voilà. Hein? La vie éternelle, c'est qu'ils connaissent Dieu et Jésus-Christ. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. On peut lire aussi le verset 21, dans le même chapitre de Jean.
Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé.
Voilà, ils sont un. Et je vous propose aussi de continuer à prendre les versets dans 1 Corinthiens, au chapitre 8, versets 4 à 6. Alors, on lit bien entendu beaucoup de versets, mais je crois que la parole de Dieu, elle se suffit à elle-même. Hein, elle nous parle, donc c'est pour ça qu'on va lire pas mal de versets. Hein. 1 Corinthiens, chapitre 8, versets 4 à 6.
On l'avait déjà lu.
On l'a déjà lu.
C'est ce qu'on a lu au début.
Ah oui, pardon. D'accord. Donc c'était ce passage qui m'avait parlé aussi. Ok. Alors, il est le seul Dieu, l'unique. Exode 15, verset 11.
Qui est parmi tous les dieux, ô Éternel, qui est semblable à toi, et qui est comme toi, paré de sainteté, et redoutable, et digne de louange, opérant des prodiges?
Voilà, c'est l'unique, celui qui, personne ne peut le comparer. Alors là, j'ai marqué deux actes, mais c'est Zacharie. Zacharie, chapitre 14, verset 9, on peut le lire aussi. Zacharie chapitre 14,
verset 9. L'Éternel sera le roi de toute la terre. Ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom.
Donc il n'y a qu'un seul Dieu, hein, infini et parfait. Nous pouvons lire Marc chapitre 12, verset 29. Chapitre 12, verset 29.
Jésus répondit : Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur.
Voilà. L'Éternel notre Dieu, c'est l'unique Seigneur. Hein? Tout à l'heure, nous allons parler aussi de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Mais voilà, bien, il n'y a qu'un seul Dieu. Hein, comme nous l'avons dit tout à l'heure, un seul Dieu en trois personnes. Et dans Jacques, au chapitre 2, verset 19, il est dit aussi, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, car les démons y croient et ils tremblent. Et c'est d'ailleurs pour cela que Satan a tout essayé de faire, rappelez-vous, et quand il a tenté Jésus, il a empêché d'aller jusqu'à la croix. Et quand Satan a tenté Jésus, Jésus lui a répondu, eh bien, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Donc, c'est dans Luc, au chapitre 4, on voit là quand même que Dieu s'identifie aussi à Dieu. Alors, c'est vrai que le mot Trinité n'est pas employé dans la Bible. Hein, on ne le voit pas. Il apparaît qu'à la fin du deuxième siècle, d'abord sous la forme grecque, qui est triade, dans les écrits de Théophile, bon, j'ai lu ça, hein, je ne savais pas, hein. C'est dans les écrits de Théophile d'Antioche, et ensuite, sous la forme latine, c'est-à-dire Trinité, et cela sous la plume aussi de Terlulien, qui est né entre 150 et 160, et qui était un écrivain de langue latine, où la Trinité a commencé où on a commencé à en parler de la Trinité. Ensuite, il paraît, là aussi je l'ai lu, il paraît que dans la langue allemande, je ne sais pas s'il y a des Allemands, non ? Oui ? Bien, il paraît que dans la langue allemande, on parle de triunité, ce qui est encore plus expressif. On entend qu'il y a un seul Dieu en trois personnes, égales entre elles, distinctes et inséparables. Alors, c'est vrai que si le moi est absent dans l'Écriture, la vérité qu'il exprime y est clairement enseignée, hein, dans la parole de Dieu. Alors c'est vrai que nous allons procéder par étapes. Hein. On l'a dit, il y a un seul Dieu, nous l'avons vu. Dès les premiers versets, déjà dans Genèse, on l'avait vu déjà la dernière fois, et dans Genèse chapitre 1, verset 1, il est dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc Dieu est le seul créateur, alors que c'est vrai que dans les mythologies païennes, les récits de la création font ressortir des naissances des dieux procréés les uns par les autres. Alors que c'est pas du tout, ça c'est dans la mythologie païenne. Alors dès les 10 commandements, il est dit, dans Exode au chapitre 20, verset 3, il est dit, « Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. » Donc, voilà, nous ne devons pas avoir d'autre Dieu devant notre face. Hein, et on avait vu la dernière fois, on avait parlé, « Tu ne feras point d'idole, hein, représentée par les statues ou toute autre chose. Et dans Deutéronome au chapitre 6, verset 4, il est dit « Écoute Israël, l'Éternel est le seul Dieu, nous l'avons lu ». C'est vrai que les Israélites se servent de ce texte pour confesser, pour leur confession de foi. Donc pour eux, voilà, c'est Dieu. Jésus, ils ne le reconnaissent pas comme Dieu. Et le Nouveau Testament n'a pas autre message. Jésus lui-même reprend ce que Moïse a affirmé dans Marc au chapitre 12, verset 29, on l'a lu. Hein, il est dit, le Seigneur notre Dieu est notre Dieu et l'unique Seigneur. Donc il est parlé là de Jésus. Alors c'est vrai que face aux polythéistes idolâtres de son temps, l'apôtre Paul proclame l'existence du Dieu vivant, créateur, unique et sauveur. Et c'est vrai que dans l'Écriture, le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont tous les trois appelés Dieu le Père. Et nous allons... je crois que je m'étais noté... J'ai fait partir ma feuille. Attendez, pardon. C'est là. Je vais prendre celle-là, je m'étais noté des références. Dans l'Ancien Testament, au sujet là, le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont appelés Dieu. Dans l'Ancien Testament, dans Isaïe 63, verset 16, il est dit, c'est toi, Éternel, qui es notre Père. Et dans le Nouveau Testament, d'un bout à l'autre, nous sommes placés en présence de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 3, on peut-être le prendre. Éphésiens chapitre 1, verset 3.
Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ.
Voilà, en Christ. Donc, c'est toi, Éternel, qui es notre Père. C'est vrai que Jésus est appelé aussi notre Père dans Romains au chapitre 1, verset 7, et aussi dans 2 Corinthiens au chapitre 1, verset 2 et 3, on peut les prendre d'ailleurs. Romains, chapitre 1, verset 7.
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ.
Voilà, de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et aussi dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 2 à 3.
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort.
Alors, j'ai dû me tromper parce qu'il est parlé du Saint-Esprit, il est appelé le Consolateur de Corinthiens, pardon, je le reprends.
Le verset 6.
Ouais. Et on peut peut-être vraiment continuer à lire. Ouais.
Jusqu'au 6.
Ouais.
Il nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. En effet, de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi, c'est par Christ que notre réconfort abonde. Si nous sommes dans la détresse, c'est pour votre réconfort et pour votre salut. Si nous sommes encouragés, c'est pour votre encouragement et pour vous permettre de supporter les mêmes souffrances que celles que nous endurons.
Oui, nous voyons quand même que là, le Saint-Esprit, on sait qu'il est appelé le Consolateur. Hein? Et là, on voit que l'Esprit de Dieu nous console. Donc, on peut conclure que le Saint-Esprit, il est Dieu aussi, parce qu'il est appelé le Consolateur. Nous sommes aussi ses enfants de l'adoption. Dans Éphésiens, au chapitre 1, verset 5, il est dit. Alors, c'est vrai que nous ne pouvons pas voir tous les textes où le Fils Jésus est appelé Dieu. Mais on va essayer de voir les principaux. Ouais. Alors, dans le psaume, 45, versets 7 et 8, hein, on voit que le psalmiste, là, s'adresse à l'époux royal et il lui dit, on va lire le psaume 45, versets 7 et 8. Psaume 45, versets 7 et 8.
Ton trône, ô Dieu, subsiste pour toute éternité. Le sceptre de ton règne est sceptre d'équité. Tu aimes la justice, tu détestes le mal. Aussi, ô Dieu, ton Dieu, a fait de toi un roi, en répandant sur toi une huile d'allégresse, te préférant ainsi à tous tes compagnons.
Hein, il est dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice, tu haïs la méchanceté. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie par privilège à tes collègues. Là, il est impossible que celui qui a écrit ce psaume se soit adressé à un roi terrestre ou en l'appelant Dieu. Hein. Il s'adresse bien, on voit bien que c'est Jésus-Christ. L'Épître aux Hébreux applique ce passage aussi dans son sens fort à Jésus-Christ. On peut prendre Hébreux au chapitre 1, versets 8 à 9. Je crois que ce passage est intéressant aussi. Hébreux chapitre 1, versets 8 à 9.
Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux.
Et c'est vrai que ce passage-là, on pourrait le lire, ce chapitre en entier, qui parle vraiment du Seigneur Jésus, et... Pouvez-vous le souligner, peut-être de le relire chez vous, tout ce chapitre 1, qui est très intéressant à lire. Hein. Il faut beaucoup de foi pour que ne pas croire cela quand même. Hein. Mais il dit au Fils, donc c'est à Jésus-Christ. Hein. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Donc on voit bien que Jésus est appelé Dieu. Et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Hein, tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité, etc. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et on pourrait, si je continue, hein, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes, ils vieilliront, tout comme un vêtement. Tu les rouleras comme un vêtement, comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Voilà. Et il est dit, auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est très intéressant ce passage de Hébreux. Hein. Et il y a un passage aussi qui est parlant, qui parle de Jésus-Christ, et là je crois que on ferait bien de prêter attention à ce qu'il est dit. Par exemple, si on prend dans Jean, tout simplement, le chapitre 1, passage qui est assez clair. Hein. Bon, on ne va pas le lire non plus tout haut. On va le lire peut-être, oui, jusque de 1 à 14. Je crois que la parole de Dieu parle d'elle-même. Alors, si quelqu'un veut lire Jean, chapitre 1, de 1 à 14...
Était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans ce monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.
Bon, là, je pense que c'est assez clair, ça parle de qui ?
Jésus.
C'est de Jésus-Christ que ça parle. Et ce passage, il est vraiment parlant. Et au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Alors c'est vrai que... je sais que les témoins de Jéhovah, eux, ils ont changé, je crois que même d'ailleurs tu en avais parlé, ils ont changé le petit dé. Hein,
le petit dé était un dieu.
Voilà, était un dieu. Hein, alors que ça a été très mal traduit, hein, parce que je crois que même, j'avais lu un peu, celui qui a fondé les témoins de Jéhovah, je crois que c'était le Luther Ford, qui, voilà, et on lui avait demandé après, il y avait eu des problèmes de traduire pas mal de passages en grec ou en hébreu, mais en fait, ils ne savaient pas. Et donc, ils avaient enlevé ce « deux » en disant ce petit « dé ». Donc, ça change tout. Mais là, il est bien question de Dieu, hein, c'est assez clair. Hein. Au verset 3, « Toutes choses ont été faites par elle. » Verset 4, « Elle a été la vie et elle était la lumière des hommes. » C'est bien Jésus-Christ. Verset 5, hein, ils ne l'ont point reçu, il s'agit encore là de la parole de Dieu, de Jésus. On pourrait, c'est vrai, tout lire jusqu'au verset 18. Et le verset 14 est important aussi, on peut le relire, le verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Là aussi, bien entendu, c'est de Jésus-Christ. Hein. Il est appelé Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père. Donc, Jésus-Christ est vraiment Dieu. Et c'est vrai que pour conclure ce passage de Jean, on peut regarder dans Jean 14, on peut prendre Jean 14, versets 8 et 9. Jean 14, 8 et 9.
Il lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père?
Oui, là aussi, c'est clair. Hein. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, mais il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas reconnu, Philippe. Donc on voit vraiment cette unité, cette, je sais pas, je trouve pas le mot de dire, cette conformité, cette, ils sont identiques, quoi. Hein, ils sont dans la même lignée, il y a pas l'ombre d'un défaut ou d'une contrariété ou quoi, non, les deux sont, Dieu et Jésus sont vraiment, Jésus est vraiment Dieu. Et c'est vrai qu'il faudrait même aussi le lire en entier ce chapitre, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop le temps. Et pour compléter, Paul déclare que Jésus est au-dessus de toute chose. Dans Romains au chapitre 9, verset 5. Vous pouvez bien prendre Romains chapitre 9, verset 5.
Car je souhaiterais être moi-même anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement. Amen.
Et encore Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 8, on peut le lire.
Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
Ça, c'est un passage aussi que... il faudrait le méditer, quoi. C'est vraiment Jésus n'est pas moins que Dieu le Père. Il s'est dépouillé lui-même. Cette soumission n'est pas une infériorité. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant. Parce que Dieu l'avait envoyé justement pour qu'il puisse vraiment sauver l'humanité. C'est vrai que ce week-end, on a entendu pas mal parler de la soumission. Mais Jésus-Christ, lui, il s'est soumis simplement par amour. Mais il est Dieu. Et un autre passage qui me semble quand même essentiel aussi, prenons Exode au chapitre 34, verset 14. Attendez, pardon, on va peut-être prendre avant, hein. On va prendre encore dans Jean au chapitre 20, verset 28, pardon. Jean, chapitre 20.
Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. »
Là, on voit que Jésus, enfin, Thomas l'appelle à Jésus-Christ, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Dieu. Et Jésus lui répond et ne le contredit pas. Il lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux celui qui n'a pas vu et qui croit. » Est-ce que nous faisons partie de ces personnes-là qui croient que Jésus-Christ est Dieu? Et est-ce que nous pourrions dire comme Thomas, mon Seigneur et mon Dieu? Alors c'est vrai que souvent on parle de Thomas. « Oh mais moi je suis comme Thomas, je crois que ce que je vois. » Mais voilà la réponse de Thomas. Voilà la réponse, parce qu'on s'arrête là. Mais Thomas a été beaucoup plus loin. Il appelle mon Seigneur et mon Dieu. Alors, quand on dit, voilà, moi je suis comme Thomas, je crois que ce que je vois, il faut leur dire, eh bien oui, mais qu'est-ce qu'il a répondu, Thomas? Et il a répondu, oui, mon Seigneur et mon Dieu. Un autre passage que nous pouvons prendre, c'est prenons dans Exode au chapitre 34, verset 14, là. Il me semble que c'est aussi un passage important. Exode.
Vous ne vous prosternerez devant aucune autre divinité, car son nom à lui, c'est l'Éternel qui ne tolère aucun rival, et il est effectivement un Dieu qui ne tolère aucun rival.
Voilà. Ouais. Verset 14, « Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. » Matthieu 14, verset 33, ou Matthieu 28, 9, on ne va peut-être pas les lire, mais on voit que les disciples adorent Jésus. Et on voit aussi dans Matthieu 28, 29, les femmes adorent Jésus. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus ne les réprimande pas. Mais, rappelez-vous, il a dit à sa femme, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Dans Matthieu chapitre 4 et dans Actes chapitre 10 et 25. Et on sait aussi que Pierre... refusa que Corneille se prosterne devant lui. Et même les anges ont refusé que qu'on se prosterne ou qu'on les adore. Alors, quand Jean voulut adorer l'ange lui dit, non, adore Dieu. Alors, on va lire maintenant Hébreux, et on va arriver à ce que je voudrais vous dire. Hébreux chapitre 1, versets 4 à 8, je crois qu'on l'a lu.
Oui.
Ouais. Alors, tout ça pour dire, si les anges eux-mêmes adorent Jésus, c'est bien qu'il est Dieu. Et on s'aperçoit quand même que Jésus encore, seul Dieu est capable de pardonner les péchés. Mais revenons sur les anges. Hein. Tu adoreras que l'Éternel, ton Dieu. Est-ce que Jésus était un imposteur? Puisque Jésus lui-même, on a lu des passages qui dit comme ça qu'il n'y a qu'un seul Dieu et on n'adore que Dieu. Alors, quand les disciples, ou quand Thomas l'appelle « mon Seigneur et mon Dieu », il ne le reprend pas. Hein? Ça veut dire que si, est-ce que Jésus est un imposteur ou pas? Non, s'il n'a pas repris, c'est que, voilà. Et quand il a dit aussi, mais je suis à Philippe, mais tu n'as pas vu le Père, mais depuis le temps que je suis avec toi, tu n'as pas vu le Père. Donc on voit bien que Jésus se laisse appeler Dieu. Et alors surtout qu'il venait de dire qu'on adore que Dieu. Donc c'est qu'il est bien Dieu. On ne peut pas nier. Jésus-Christ est Dieu. Hein? Bien entendu, il s'est dépouillé, étant venu sur la terre, il s'est dépouillé. Il a pris l'apparence d'un homme. Vous comprenez ce que je...
C'est pour ça que les Juifs l'ont mis à mort, hein. C'est parce qu'ils disaient qu'il était Dieu. Tout dans le 5, c'est marqué.
Tout à fait. Et il y a encore aussi un passage qui est quand même important, c'est que le seul Dieu est capable de pardonner les péchés. Et Jésus a affirmé que lui et le Père étaient un. Et rappelez-vous quand il a guéri le paralytique et qu'il lui dit « prends ton lit et marche », alors que les autres... je ne sais pas où il est ce passage, j'aurais dû le marquer.
Au départ, il dit « tes péchés te sont pardonnés ».
Oui, oui, c'est ça, oui. Et il est repris parce que les Juifs lui disent « mais enfin, comment ça fait qu'il pardonne les péchés ? Seul Dieu est capable de pardonner les péchés. » Et Jésus lui dit tout.
C'est Marc 2.
Hein ? C'est dans Marc 2 ? Ah, ben on peut le prendre, voyons.
Ou Luc...
on peut le prendre, voyons. C'est un passage important aussi. Parce que c'est vrai que seul Dieu peut pardonner le péché. Tu dis dans Matthieu, dans Marc.
Marc.
Chapitre 2, verset 5.
Marc, chapitre 2, verset 5. On peut le lire.
Lorsqu'il vit la foi de ces gens, Jésus dit au paralysé, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Or, il y avait à cela quelques spécialistes de la loi qui raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Comment cet homme ose-t-il parler ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul?
Voilà. Hein? Voilà, donc on voit encore là que Jésus est Dieu. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Alors, c'est vrai que Jésus a affirmé que lui et le Père étaient un. Alors, puissions aussi reconnaître qu'il est celui qu'il prétend être. Hein? Il est Dieu. Et rappelez-vous, hein, souvent à Noël, on en parle. On l'appellera Père éternel, Dieu tout-puissant, Prince de la paix, Emmanuel, Dieu avec nous. C'est quand même... il faut beaucoup de foi, hein, pour ne pas croire que Jésus n'est pas Dieu. Hein? C'est bien écrit dans la Bible. Alors c'est pour ça que... voilà... La parole de Dieu, pour nous, elle est révélatrice et on a besoin justement de connaître Dieu à travers la Bible. Alors c'est vrai que beaucoup de religions, de sectes disent que Jésus n'est pas Dieu. Je ne veux pas citer mais les témoins de Jéhovah, ils ne reconnaissent pas Jésus comme l'égal de Dieu. Hein? Ou c'est les mormons aussi, les musulmans qui disent que Dieu n'a pas de fils. Alors que c'est quand même clair. Voilà ce qui concerne un peu, je suis obligé d'avancer, ce qui concerne Jésus-Christ. Alors, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que vous voulez rajouter sur Jésus? Est-ce qu'il y a un passage qui vous vient plus...
La dernière fois aussi, tu nous avais cité le passage où Dieu parle à Moïse, il dit « Je suis celui qui suit ».
Oui. Ah oui.
Et dans Jean 8, verset 58, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, oui.
moi je suis. »
Oui. Voilà. Et exact. Les Juifs ne se sont pas trompés, oui. ils ont voulu le lapider.
Oui, ouais, tout à fait.
Et Paul y dit « Le Fils est l'image du Dieu invisible ». Le premier-né de toute la création, car en lui, donc en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations. Tout a été créé par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. C'est Colossiens. Hein.
Voilà, Colossiens.
Verset 15. Et là, toute la suite, ça parle de la gloire de Jésus qui est Dieu.
Voilà, ça c'est des passages aussi à retenir et à se le noter et à lire. Tu peux le redire, Colossiens 1
Colossiens 1, verset 15 et jusqu'à 15 à 17.
Tous les deux premiers chapitres de Colossiens, c'est la démonstration que Jésus-Christ est au-dessus de tous les dieux. C'est vraiment le but de Colossiens.
Alors maintenant, on va essayer d'avancer aussi, nous allons parler, puisque le thème c'était la Trinité, nous allons parler du Saint-Esprit. Alors, c'est vrai que là aussi, les témoins de Jéhovah, ils disent que le Saint-Esprit est une force active et que c'est une influence. Hein? Il est écrit que nous sommes le temple de Dieu, hein, du moment que l'Esprit habite à nous. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, versets 16 et 17, nous pouvons le lire. 2 Corinthiens. Chapitre 3, versets 16 et 17.
Lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté.
Voilà. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, c'est la liberté. On peut-être aussi le verset 18, tant que tu y es.
Nous tous qui le visage découvert reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit.
Ouais. Dans Exode, chapitre 34, verset 34, nous lisons « Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile. » Et Paul évoque ce texte en disant « Lorsque l'on se tourne vers le Seigneur, le voile est ôté. » Et il ajoute « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. » C'est l'Esprit. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 1. Il nous est rappelé que Jésus est notre avocat, celui qui l'intercède, celui qui console. N'est-ce pas? Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 1. Et lisons Jean, chapitre 14, verset 16.
Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous.
Voilà. Hein? Il ne nous laisse pas orphelins, il enverra un autre consolateur, l'Esprit Saint. Et vous savez, le Saint-Esprit a des caractéristiques personnelles. L'intelligence, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11, on peut le lire. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11.
En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu.
Voilà, ce n'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit a des sentiments. Romains 8, verset 27. Romains 8, verset 27, ça parle des sentiments.
Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints.
Et le Saint-Esprit, je vous l'ai marqué sur la feuille, le Saint-Esprit a des actes personnels. Il génère. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de taper. Jean 3:5.
En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
Voilà. D'eau et d'esprit. On sait que l'eau représente la parole. Et l'esprit, l'esprit de Dieu. Alors, il enseigne aussi. Il rend témoignage. Et Jean 15, verset 26.
Quand le défenseur sera venu, celui que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra lui-même témoignage de moi.
C'est vrai que l'Esprit rend témoignage de Jésus-Christ. Il convainc aussi, Jean 16, versets 8 à 11, on peut le lire.
Et quand celui-là sera venu, il convaincra le monde de péché et de justice et de jugement, de péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me voyez plus, de jugement parce que le chef de ce monde est jugé.
Il conduit dans la vérité aussi, et nous savons que seul Dieu est la vérité, toute écriture aussi est inspirée par Dieu. L'Esprit glorifie Jésus-Christ. Il parle dans Actes au chapitre 13, verset 2.
Pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. »
Voilà. Le Saint-Esprit dit, il parle. Actes chapitre 2, verset 7 aussi, dans la même idée. Acte 2, verset 7.
Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration, et ils se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ?»
Oui, pour arriver. Parce que là, il parlait en langue. Hein, il parlait en langue, là, donc par l'Esprit de Dieu. Donc, Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit dirige dans Actes chapitre 16, verset 6. Toujours dans Actes.
Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie.
Donc il dirige, hein. Le Saint-Esprit intercède, Romains 8, verset, chapitre 8, verset 26.
De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable.
Voilà, là aussi, c'est le Saint-Esprit, hein. Ils sont de tout. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10.
Or c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu.
Ouais. Il opère toutes choses. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11.
Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut.
Alors tous ces liens que nous avons vus là avec le Père, le Fils, ce sont d'une personne. C'est les caractéristiques, merci, d'une personne. Hein? On peut le tenter aussi, Actes chapitre 5, verset 9. On peut lui mentir, on peut l'attrister, Éphésiens 4, 30. Hein? Ésaïe 63, verset 10 aussi. On peut lui résister. Dans Actes chapitre 7, verset 51. On peut aussi l'insulter, on peut blasphémer. Matthieu chapitre 12, verset 31. On va lire. Matthieu 12, verset 31.
C'est pourquoi je vous le dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné.
Tout cela prouve que le Saint-Esprit est une personne et non une influence. Il n'est pas non plus une simple personne. Il est Dieu. Les attributs divins lui sont reconnus. Il est éternel. Hébreux chapitre 9, verset 14. Nous avions parlé des attributs de Dieu au début. Hein, là, les attributs lui sont reconnus aussi. Il est éternel. Hébreux 9, chapitre 9, verset 14. Je vais le lire.
Combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes?
Voilà, il est par l'Esprit éternel. Il est omniscient aussi. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. On peut le lire?
Moi j'ai lu.
On l'a lu. Il est omnipotent, Luc 1, 35. Le dit aussi. Il est omniprésent. Psaume 139, verset 7 à 10. Ce sont des attributs divins aussi que le Saint-Esprit a. C'est vrai que les œuvres divines lui sont attribuées, telles que la création. Genèse chapitre 1, verset 2. Ou alors Job 33, verset 4.
L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime.
L'Esprit de Dieu m'a créé. Il est l'inspiration de la parole. Et on pourrait aussi parler de Romains au chapitre 8, verset 11. Il ressuscite les morts. On peut le prendre d'ailleurs. Prenons Romains chapitre 8, verset 11.
Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous.
Voilà. C'est clair. Toutes ces références de la révélation de Dieu prouvent que le Saint-Esprit, eh bien, il est bien Dieu. Tout comme Jésus est Dieu, tout comme le Père, eh bien, ils sont un en trois personnes. Et c'est vrai que dans l'histoire de l'Église, des oppositions à la doctrine de la divinité du Saint-Esprit, il y en a eu. Le Saint-Esprit est présent par divers symboles dans l'Écriture. Alors on le voit à travers l'huile, on le voit aussi à travers l'eau. Dans Jean 7, verset 38-39, il est aussi représenté comme le vent, le feu, dans Actes chapitre 2, verset 3. Ou alors, vous rappelez, la colombe, hein, là aussi, dans Matthieu chapitre 3, verset 16. Hein, ou alors le sceau, le gage, dans Éphésiens chapitre 1, verset 4. Alors, le mystère de la Trinité, c'est vrai, nous dépasse. C'est pas facile d'entamer, enfin de parler du Saint-Esprit, mais comme on l'a dit tout à l'heure, heureusement que nous avons les références dans la parole de Dieu. Parce que c'est vrai que ça, c'est, Enfin, moi, ça me dépasse, mais voilà ce que dit la parole. Il faudrait être Dieu pour le comprendre pleinement. Mais Dieu, dans sa grâce, nous a laissé la parole. Alors, saisissons les vérités de sa parole qui nous est enseignée dans la Bible. Sans vouloir aller au-delà, mais sans non plus négliger ce que nous devons croire. Grâce au texte de l'Écriture et par l'action du Saint-Esprit, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10, le dit, hein, il nous est possible de connaître le seul vrai Dieu, hein, et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Et cette connaissance-là, eh bien, c'est la vie éternelle. Alors, je vois, c'est on a juste l'heure. Bon, je ne sais pas si c'est un thème assez... moi, en lisant les versets, ça m'a aidé aussi. Et j'espère que c'est assez clair pour vous. S'il y a d'autres questions, éventuellement, on peut en parler. Si vous avez aussi à dire quelques mots sur le Saint-Esprit qui vous viennent aussi à l'esprit, hein, n'hésitez pas. On a encore deux petites minutes. Est-ce qu'il y a des questions ou...
En fait, ça me fait penser à la feuille qu'on vient de lire. Parce que oui, enfin, tu disais la Trinité, en quelque sorte, c'est quelque chose d'un peu mystérieux. Mais on voit, enfin, ça m'a, quand on faisait l'étude, là, ça me faisait penser vraiment à ce verset quand Jésus disait « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père si ce n'est que par moi. » C'est-à-dire, on peut pas saisir Dieu en entier si déjà il n'y a pas d'autre chemin que par le Christ, quoi. Et dès qu'on reconnaît vraiment celui qui est venu, Jésus, et qu'on le reconnaît comme le Christ, alors, tu l'avais dit, en citant ce passage, il y a le voile qui tombe. Et après, tout le reste nous est révélé, quoi. Mais sinon, c'est impossible.
Ah oui.
C'est pas possible.
Je crois qu'on peut avoir toute la connaissance, toute l'intelligence, si on n'a pas, si on n'avait pas les Écritures, on ne pourrait pas...
Mais c'est impossible.
Ouais.
C'est-à-dire que de reconnaître que Jésus est la parole, ouais, et de s'y soumettre, parce que on peut, c'est là où on reconnaît que voilà, on peut lire la Bible, mais sans jamais qu'elle nous parle, parce que on n'a jamais reconnu que Jésus est le Christ, quoi, et que c'est lui le seul chemin.
Tout à fait. Juste.
Peut-être pour appuyer un peu ce que dit Edouard. On a le psaume 36, verset 9. Le psaume 36, verset 9 qui dit « Car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. » C'est-à-dire que si la lumière de Dieu ne nous éclaire pas, il nous est impossible de voir la lumière. C'est-à-dire de contempler Dieu, de saisir les vérités que nous avons vues ce soir. C'est impossible. Tu peux être le plus intelligent, enfin, je ne sais pas, docteur, je ne sais pas quoi, mais franchement, si le Saint-Esprit ne t'éclaire pas, tu es aussi ignorant qu'un petit bébé, quand même, tu dis. C'est vraiment l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu t'éclaire, les écailles des yeux tombent, comme avec la prophétie, là. Les écailles sont tombées de ses yeux. Et là, tu vois. En fait, notre drame, c'est qu'on veut comprendre Dieu uniquement par notre petite intelligence.
Notre sagesse humaine.
Oui, la sagesse humaine.
Pour le sol.
Voilà. C'est impossible de connaître Dieu uniquement par notre seule intelligence humaine. Nous ne pouvons pas connaître Dieu.
Et moi, j'étais en train de penser, là, pour donner une image. Qu'une image, par exemple, de Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus et le Saint-Esprit. J'étais en train de penser, c'est un peu comme le soleil. D'ailleurs, le soleil, on ne peut pas le regarder. Mais par contre, sans soleil, il n'y a pas de vie. Hein? Il est le soleil et la lumière, et le soleil nous réchauffe. Et bien, c'est un peu, enfin, je ne sais pas si l'image, hein, si on peut comparer ça avec Dieu, c'est pareil. Hein, on ne peut pas le contempler, le voir comme on l'avait vu la dernière fois, mais Jésus est la vie, il nous réchauffe, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu nous réchauffe et il est la lumière. Un peu pour imaginer. Voilà. Voilà, mais c'est. On va peut-être terminer par prier. Jean, si tu veux, on y prend.
Seigneur Dieu et Père, nous nous prosternons devant ta sainte face, car nos cœurs ont reconnu que tu es vraiment Dieu, Dieu le Tout-Puissant, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, tu es Dieu, tu es notre Dieu. Seigneur, merci pour cette révélation, Seigneur, qu'aucune intelligence humaine ne peut saisir, ne peut comprendre, ne peut accepter, parce que c'est une folie. Et, Seigneur, ce qui est une folie pour les hommes, c'est la sagesse de Dieu. C'est pour cela, Seigneur, nous te bénissons que pour cette étude, vraiment toutes ces études que nous faisons sur la personne même de Dieu sont extrêmement importantes, parce que c'est sur cette base-là que notre foi est fondée, sur la base de ce que déclare la parole de Dieu à propos de Dieu lui-même. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, nous te bénissons de nous l'avoir donnée, nous te bénissons que le Saint-Esprit nous a ouvert les yeux afin que nous puissions comprendre. Seigneur, donne-nous vraiment d'être saisis nous-mêmes et aussi d'apporter cette lumière aussi aux hommes et que vraiment tu sauves le maximum de personnes, que tu éclaires le maximum et que tu régénères le maximum de personnes. Merci Seigneur, merci pour cette soirée, toutes ces soirées magnifiquement bénies Seigneur. Nos cœurs sont vraiment dans la joie, l'allégresse et Seigneur, il n'y a pas de mots pour décrire ce que tu nous donnes, ce que tu nous as donné ce soir. Nous te bénissons en Jésus-Christ notre Seigneur. Merci Seigneur. Amen.
Amen.